Comme tous les lundis soirs, je vous laisse avec nos champions, nos chroniqueurs sportifs, autour de Jean Sureda pour l'émission Sportez-vous bien. Bonne soirée et portez-vous bien à l'écoute de Présence.
Sportez-vous bien. Sportez-vous bien. Sportez-vous bien. L'actualité sportive commentée par Jean Sureda.
Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans Sportez-vous bien, l'émission sportive de Radio Présence. Comme tous les lundis, les chroniqueurs et moi-même vous donnerons les dernières infos sportives de la région tout en balayant l'actualité de la semaine avec des invités qui font le sport de haut niveau. Au programme aujourd'hui, les coups de cœur et les coups de gueule de nos chroniqueurs. Timothée Rouvière vous donnera les résultats du week-end. Lucas Serdic, l'agenda de la semaine. Sans oublier, bien évidemment, les débats avec ce soir, le niveau de l'Olympique de Marseille et le Stade français. Enfin, nous recevons Nolan Bediav, champion du monde de roller sur le 20 km et le marathon. Avec nous aujourd'hui, Timothée Rouvière. Bonsoir Timothée.
Bonsoir Jean, bonsoir à tous.
Lucas Serdic, bonsoir Lucas.
Bonsoir Jean, bonsoir à tous.
Marek Keta, bonsoir Marek.
Bonsoir à tous.
Et Maxime Brossard, bonsoir Maxime.
Salut.
Et en ce 24 septembre, c'est l'anniversaire d'un de nos chroniqueurs. Il est tout content, il a le sourire. Bon anniversaire, Timothée Rouvière.
Eh ben merci Jean, merci à tous.
Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui là?
J'ai passé une très belle journée aujourd'hui avec mes amis, avec mes proches. Voilà, et ce soir, on rentre tranquillement à la maison pour fêter ça en famille.
Les cadeaux?
Les cadeaux, un vélo, donc pour se remettre au sport, voilà. Ce début d'année, c'est important.
Vous faites quoi pour vos anniversaires, messieurs? Lucas?
Moi, justement.
C'est bientôt, non?
Oui, c'est bientôt, et on m'a fait une petite surprise ce week-end, du coup, pour mes 30 ans. C'était un week-end très festif, festif.
Ça s'entend ou ça se voit?
Non, pas tant,
Ça va. Maxime, vous faites les anniversaires, oui?
Oui, la bringue, comme tout le monde, quand c'est l'anniversaire.
Avec modération, bien évidemment.
Bien sûr,
Toujours avec modération. Et Marek, pareil, je pense que on fête l'anniversaire.
Vous savez, moi, je suis plein mois d'août, alors souvent, c'est sous les cocotiers, quand je peux.
C'est parfait.
Quelle triste vie.
C'est dommage, oui. J'espère que votre bonne humeur va se poursuivre avec les coups de cœur et les coups de gueule.
Sportez-vous bien, les coups de cœur et les coups de gueule.
Juste avant, l'occasion de dire bonjour à notre invité qui est déjà en studio. Ravi de vous avoir, Nolan Bediav, bonsoir.
Bonsoir.
On le rappelle, vous êtes champion du monde donc de roller sur le 20 km et le marathon, on en parlera tout à l'heure.
C'est ça.
Les coups de cœur et les coups de gueule, comme d'habitude, chaque semaine, vous nous parlerez d'un événement qui vous a fait plaisir ou non. Et cette semaine, on est sur du 75% de coups de cœur. C'est une très bonne semaine. On commence, Maxime, avec vous cette semaine. Coup de cœur sur le combat du UFC.
Oui, le combat à venir entre McGregor et Khabib Nurmagomedov. Ce sera l'UFC 229, c'est prévu donc le 6 octobre, mais les hostilités ont été lancées la semaine dernière avec une conférence de presse. Bon, au-delà du show habituel que représentent les conférences de presse, je voulais me pencher sur ce combat puisque c'est un peu, c'est un combat qui va mettre en valeur la richesse et la complexité du MMA. Puisque d'un point de vue étymologique, on peut dire que MMA c'est Mixed Martial Arts, et donc c'est ce qui veut dire que c'est les arts martiaux mixtes, donc c'est la combinaison de plusieurs arts martiaux. Et justement là on va avoir une belle opposition de style entre un striker, un boxeur qui est McGregor, et un grappleur, un lutteur qui est Khabib. Et je pense que ça va être un énorme événement donc pour les amateurs du UFC, mais c'est aussi à mon avis une belle porte d'entrée pour tout novice qui veut découvrir ce sport, parce que ça va quand même être, à mon avis, un magnifique combat.
McGregor, c'est celui qui avait défié Mayweather, c'est ça, hein?
C'est ça, c'est l'Irlandais qui avait défié Mayweather à la boxe. Voilà, c'est un peu la tête d'affiche de l'UFC, vous savez, c'est ce petit Irlandais barbu, plein de tatouages, qui a une immense bouche, qui fait beaucoup de commentaires, très présent sur les réseaux sociaux. Voilà.
Okay. C'est pour quand?
C'est prévu pour le 6 octobre. Voilà. Donc après, pour le voir, il vous faudra vous abonner par Pay-Per-View sur le site de l'UFC, puisque c'est payant, c'est $30 la soirée, il me semble. Mais c'est après, mal, sinon, vous pourrez, y a moyen, je pense, de le voir en rediffusion après. Voilà.
Il y a aussi un sport qui aujourd'hui coûte cher, c'est le football. Entre, on va les citer, Canal+, Beansport, RMC. Il faut avoir de l'argent pour regarder le foot. Le football, c'est le coup de cœur de Timothée Rouvière. C'est l'Olympique Lyonnais, après une très bonne semaine, victorieux à Manchester City en Coupe d'Europe, vainqueur hier contre l'Olympique de Marseille. Marseille, on en parlera tout à l'heure.
Ah oui, tout à fait. Ça fait du bien de voir enfin une équipe française qui gagne en Ligue des Champions. Donc après la défaite de Paris contre Liverpool, on va pas se remémorer. Et de Monaco. On va pas se remémorer de mauvais souvenirs. Lyon qui est resté sur un match nul, deux partout, assez pitoyable au niveau du jeu contre Caen, et là qui décroche une victoire quasi inespérée, 2-1 face à Manchester City, qui est quand même le champion d'Angleterre en titre, et qui était favori pour la Ligue des Champions avec les Agüero, les Leroy Sané, etc. Donc,
Lucas, la semaine dernière, on était un petit peu méchant avec l'Olympique Lyonnais dans le débat de la Ligue des Champions, surtout avec Bruno Genesio. Ouais. Là, il a fait taire tout le monde. Là. Vainqueur à Manchester City, vainqueur contre l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'il a fait taire justement tout le monde? Je vous vois faire la grimace.
Il a fait taire tout le monde, mais je pense pas qu'il ait fait exprès, en fait. C'est ça le problème avec Bruno Genesio. Et bon, sans dévoiler trop de choses, je sais à peu près deux, trois trucs qui se passent dans le vestiaire lyonnais. Comme le fait que ce match-là, il avait pas du tout prévu de le gagner. Il avait pas non plus prévu de faire un coup de génie tactique. Il a subi les événements. Il avait prévu de faire tourner un petit peu. Et ce sont les joueurs qui ont voulu gagner ce match et qui ont mis l'intensité qu'il fallait. Et pas du tout le coach qui leur a demandé. Après, ça n'empêche pas que le match de Marseille, par contre, ça, il voulait le gagner. Ça c'est une belle performance, mais City, ça reste un exploit d'une équipe avant d'être un exploit de coach.
C'est ce genre de match qui lance une saison pour l'Olympique Lyonnais après un début de saison pour le statut de l'Olympique Lyonnais assez pauvre. Là, ça lance vraiment une saison sur une semaine comme ça.
Ah oui, la saison, elle est vraiment lancée, ça c'est sûr. On peut que dire ça, parce qu'il y a eu un recrutement intelligent, moi je pense, entre les Moussa Dembélé, Tanguy Ndombélé, qui a signé définitivement. Donc les recrues ont eu du mal à se mettre dedans. Il y a eu le départ de Mariano au Real, mais là je pense que Lyon est parti. Et ce qui est intéressant avec cette équipe, c'est qu'il y a un fond de jeu intéressant et chaque poste est doublé et chacun est compétitif. Donc je pense que l'équipe peut aller loin. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de talent dans cette équipe lyonnaise.
Après, la semaine, elle n'est pas terminée, non? Il y a un match mercredi, il me semble.
Il joue mercredi,
c'est
oui.
Ça, ouais. Tout à fait.
Là c'est des semaines à des matchs tous les 3 jours, pendant 2-3 semaines pour quasiment la totalité des clubs, avec la Coupe de la Ligue, la Ligue des Champions, enfin la Coupe d'Europe.
Surtout pour les clubs européens, oui.
Et la Coupe d'Europe. Lucas, on change de sport. Le top 14, c'est un coup de gueule, c'est le coup de gueule de la soirée sur le top 14, Montpellier-Toulouse, j'ai l'impression.
Oui, en fait c'est pas tant le top 14 que ce match qui illustre, à mon avis, un souci qu'il y a dans le top 14. La raclée que s'est pris le Stade Toulousain à Montpellier, 66-15 ce week-end. Pour un club du standing du Stade Toulousain, et surtout quand on habite à Toulouse comme moi depuis quelques années, je trouve ça incroyable. C'est quelque chose en foot qu'on pourrait pas voir, c'est impossible ça, quelqu'un qui lâche un match à ce point-là contre un adversaire direct, contre un club rival, contre un club de la même région. Ils se sont même pas cachés, il n'y a pas un seul joueur titulaire qui l'aurait été quasiment en temps normal, il n'y a que des jeunes. Ils le disent à la fin, c'est un choix, on l'assume complètement. Ça fait quelques années qu'il y a des matchs comme ça qui sont balancés. Je crois pas que le rugby, le top 14, puisse se permettre ça. Je pose une question, est-ce qu'il faut arrêter avec les phases finales? Est-ce qu'on se prive de ça pour ne plus avoir de matchs qui sont comme ça balancés, 10 essais encaissés, quoi? Alors on vantait les mérites de du bon début de saison toulousain, et là on a une catastrophe, quoi. Genre, c'est bon pour personne, à mon avis, ce genre de match.
Oui, surtout que là, ils ont envoyé les jeunes au casse-pipe, si vous me permettez l'expression. Donc, surtout que là, c'est pas comme s'ils les avaient envoyés contre une équipe qui n'est pas une équipe physique. Ils sont tombés face à des mammouths, quoi. Quand vous voyez le pack de Montpellier, vous faites concasser, quoi. Donc, vous rentrez.
C'est ce qui s'est passé direct, dès le début du match.
Vous rentrez les valises pleines et en morceaux, quoi. Donc, ça sert à rien pour les jeunes. Et en plus, ça casse une bonne dynamique. C'est vrai que c'est dommage. Ouais.
Messieurs, comme l'a dit Lucas, est-ce que c'est finalement, il faut pas enlever les phases finales? L'année dernière, et le prochain adversaire de Toulouse, Castres, qui a été champion de France en étant sixième, là finalement Toulouse se dit on perd un match, c'est pas grave, sixième, cinquième, quatrième,
ça fausse une partie du championnat en plus, parce que ce match-là, il l'aurait peut-être pas lâché si ça avait été un déplacement à Pau ou à je ne sais pas, à Grenoble ou à Perpignan, c'est à Montpellier. Donc voilà, parce que l'équipe est sur le papier forte, on laisse tomber le match, je trouve ça vraiment moyen.
Timothée revient.
Et aussi, il faut surtout penser aux spectateurs. Moi, je pense des spectateurs qui
ça manque de respect pour les supporters.
Qui payent presque 25 ou 30 euros la place et qui voient Toulouse se faire concasser, tout simplement. Donc, c'est quand même assez triste au niveau du spectacle.
C'est le voisin, en plus. Le voisin, l'ennemi de la région. On ne pensait pas encore une affiche qui parle beaucoup, mais quand même.
Et on termine, messieurs, avec Marek Keita. un coup de cœur, ça c'est bien, pour le judo français.
Eh oui, les championnats du monde qui se déroulent actuellement et la judokate, donc Clarisse Abgeninou, qui a remporté son troisième titre de championne du monde hier à Bakou en Azerbaïdjan, dans la catégorie poids mi-moyen, donc ça équivaut à moins 63 kg. Et elle devient un des plus beaux palmarès du judo français, puisque du judo féminin français, puisqu'elle a désormais trois titres mondiaux à son actif, deux médailles d'argent en 2013-2015, trois titres européens et une médaille d'argent aux derniers Jeux Olympiques en 2016. Tout ça à peine 25 ans. Et elle est même désormais la quatrième tricolore à avoir trois couronnes à son actif. Elle rejoint Brigitte Dédier, Lucie Décosse et Gévrise Eman. Alors pour ce qui est de ce qui s'est passé à Bakou, bah elle a marché sur son tournoi avec 5 victoires sur 5, toutes par ippon. Alors le ippon, je le rappelle pour nos auditeurs,
c'est un KO, enfin c'est presque
ouais,
KO, c'est,
voilà, ça veut dire littéralement japonais un point entier. C'est le score le plus élevé qu'un combattant peut obtenir lors d'une compétition.
Quand il y a un ippon, c'est terminé, que ce soit terminé. Au bout de la deuxième seconde. Absolument. Ou de la dernière seconde, oui. Justement, c'est terminé dès qu'il y a un ippon.
Exactement, ça veut dire que c'est le combattant adverse donc tombe au tatami avec toute la surface de son dos qui touche le sol. Ou alors alors avec contrôle évidemment de
immobilisation aussi.
Ouais, ouais. Immobilisation au bout de 20 secondes. Alors donc c'est un sans faute pour notre française, hein, puisque elle a d'ailleurs été saluée sur les réseaux sociaux par Teddy Riner, qui l'a félicité d'un sympathique bravo petite sœur. C'était assez mignon. Ça nous fait plaisir, ça fait plaisir à la France. Et c'est encourageant pour les prochains Jeux Olympiques à Tokyo.
Justement, on parle de Teddy Riner à l'instant. Est-ce qu'elle peut titiller Teddy Riner? C'est compliqué, hein.
C'est compliqué. Elle a que 25 ans, hein. Donc
justement, c'est
bon.
Pour ça.
Ouais, mais bon, il partait très tôt, Teddy Riner. À 18 ans, il était déjà champion du monde. Non, mais voilà. Pour parler du judo, c'est vrai que c'est un sport qui mérite toute notre attention et toute notre estime, parce que c'est un pourvoyeur de médailles très, 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 très fréquent pour la France. Teddy Riner, à ce titre-là, il s'est fendu d'une petite sortie sur Internet en disant, dans les médias, en disant, attention, on supprime des postes dans le ministère des Sports. Faut pas oublier qu'il y a les JO de Paris en 2024.
On en parlera des Jeux Olympiques de Paris 2024 avec Nolan Bediaf, notre invité. On se retrouve dans moins de 4 minutes pour les conseils santé de Didier Rubio. À tout de suite.
Maman m'a dit qu'elle écoutait souvent du Stevie Wonder. Quand elle attendait gentiment que je vienne au monde, je suis venu sachant qu'on ne voit vraiment jamais, non jamais, si bien qu'avec le cœur. On passe nos vies à compter tout ce que l'on n'a pas, en mettant parfois nos foi dans le plus gris des états. On oublie qu'on est bien que de l'intérieur, ça n'enlève pas les pleurs. Mais moi, je fais comme Dumbo, je ne fais que voler au-dessus de mes défauts. Je fais comme Dumbo, je ne fais que voler. Un éléphant roi se trompe parfois et danse aussi mal que vous et moi. En éléphant, moi, je ne me trompe pas quand je me dis qu'il faut qu'on s'aime soi. Les oiseaux les plus bruyants, les plus coucous, je suis là, ne sont pas les plus aimants, enfin ça dépend je crois. La place que l'on prend ne dit jamais bien si l'on est heureux de ce que l'on devient. Je fais comme Dumbo, je ne fais que voler au-dessus de mes défauts. Je fais comme Dumbo, je ne fais que voler. Que vous et moi, en éléphant, moi, je ne me trompe pas quand je me dis qu'il faut qu'on s'aime soi. Au soir. J'aime les hommes qui ne s'aiment pas. Je me suis souvent demandé ce qu'aiment les hommes qui ne s'aiment pas. Moi je m'envole, je m'en vais. Je fais comme Dumbo, je ne fais que voler au-dessus de mes défauts. Je fais comme Dumbo, je ne fais que voler. que vous et moi. En éléphant, moi, je ne me trompe pas quand je me dis qu'il faut qu'on s'aime. Soit un éléphant roi se trompe parfois et pense aussi mal que vous et moi. En éléphant, moi, je ne me trompe pas quand je me dis qu'il faut qu'on s'aime.
C'était Vianney sur Radio Présence.
Sportez-vous bien, Jean Sureda.
La chronique santé avec Didier Rubio. Et cette semaine, nous allons parler des adaptations, des apports en protéines aux besoins des individus. On entend, Didier, beaucoup de protéines, on entend beaucoup le fois le mot protéines dans le sport. Concrètement, qu'est-ce que c'est ?
Oui, parce qu'en fait, il y a une relation très linéaire qui est faite par beaucoup de monde entre les muscles et les protéines. Parce que, symboliquement, bien sûr, un muscle, il est composé de protéines, donc la relation est vite faite de penser que si on consomme beaucoup de protéines, on aura beaucoup de muscles. Or, c'est vraiment tout à fait faux. C'est tout à fait faux. Il faut vraiment adapter ses apports en protéines, à savoir, on n'a réellement pas besoin d'en consommer beaucoup. Autour de 1 gramme par kilo de poids, c'est-à-dire que si vous pesez 70 kilos, vous aurez besoin d'à peu près 70-80 grammes de protéines par jour. Donc en mangeant normalement un petit peu de tout, on aura ces apports. Je tiens à souligner vraiment la différence qu'il y a entre les protéines d'origine animale et les protéines d'origine végétale. Voilà, vous l'avez compris.
Cette différence ?
Ah oui, oui, complètement, parce que il faut vraiment réveiller les consciences et faire tout pour essayer de diminuer la consommation des protéines animales, la viande qui vient de l'élevage, ou bien le poisson, les œufs, dont les ressources s'amenuisent. En revanche, moi, les œufs, je leur donne une place de choix et je privilégie les œufs de bonne qualité, ça c'est vraiment vraiment intéressant. Mais il faut pas oublier que les végétaux, c'est-à-dire tous les végétaux, les légumes, les fruits, mais plus encore
les pois chiches.
Exactement, Jean, c'est-à-dire les pois chiches, les pois cassés, les lentilles sont des sources de protéines vraiment très très intéressantes. Et lorsqu'on les associe, on pourrait même se passer de viande animale. Et pour la santé, vraiment, on pourrait faire un autre sujet là-dessus. C'est vraiment capital d'adapter ses apports en protéines et animal et végétal, et d'avoir une sorte d'alimentation qui soit plus végétale qu'animale.
Et justement, s'il y a une mauvaise adaptation des besoins en protéines, quels sont les risques ?
Les risques, tout simplement, c'est que l'organisme n'en a pas besoin, donc il est obligé de traiter cette information, il va être obligé de nettoyer les déchets qui sont issus des protéines, notamment des ions H+, on appelle ça, qui vont acidifier l'organisme, et un organisme, pour bien fonctionner, comme c'est un milieu très aqueux, c'est comme une piscine en fait, il faut que le pH soit quand même assez équilibré. Donc de fait, on n'a pas intérêt à rajouter des métabolites, des déchets comme ça, comme l'acide urique, il n'y en a pas énormément besoin, on en a besoin mais très peu, ces ions H+, et puis tout un tas de aussi. Si les protéines animales ne sont pas de bonne qualité, on a plus de risques aussi de consommer des hormones, des antibiotiques, des tas de choses comme ça.
Donc il vaut mieux manger une très bonne viande plutôt...
Alors,
où est le juste
exactement, il vaut mieux
viande,
honnêtement manger par exemple une viande rouge de temps en temps, peut-être une fois par semaine et encore, et de bonne qualité plutôt quand même que tous les jours abuser de ces produits-là. Quoi.
Didier Rubio, merci.
Avec plaisir.
On le rappelle, vous êtes diététicien et nutritionniste du sport, spécialisé en éducation thérapeutique. Vous travaillez également à mi-temps, hôpital des enfants et aussi en activité libérale dans le sport et la santé. Vous avez été formé en qualité de vie au travail et dans le sport. En plus, vous êtes conférencier et micronutritionniste. Vos coordonnées sont à retrouver sur Radio Présence. On se retrouve la semaine prochaine pour la chronique santé et tout de suite, les résultats sportifs du week-end.
Sportez-vous bien, Jean Sureda.
Les résultats sportifs du week-end, en effet, un week-end chargé, comme toujours, mitigé, j'ai envie de dire, comme toujours, pour les clubs de Toulouse. On fait le point avec vous, Timothée Rouvière. On commence avec le football, deuxième match nul de suite pour le TFC.
Oui, un match nul vierge pour les hommes d'Alain Casanova, 0-0 contre Angers. Un résultat qui permet à Toulouse tout de même de rester dans le peloton de tête, solidement accroché à la quatrième place du championnat. Mais le TFC pourra retrouver la victoire dès demain avec un match contre Saint-Etienne, on l'évoquera tout à l'heure. Au classement, Paris est en tête après sa victoire 3-1 contre Rennes. Lille est un surprenant deuxième après sa victoire 2-1 contre Nantes, dont un but magnifique de l'ancien parisien Jonathan Ikoné. Montpellier, vainqueur de Nice 1-0 et troisième. Lyon, auteur d'une victoire probante contre Marseille 4-2 et sixième, juste devant son adversaire du soir. En queue du classement, Nantes, Amiens et Guingamp se partagent les dernières places.
Et cette semaine, c'était le début de la Coupe d'Europe de football pour les clubs français. Et là, encore une fois, c'est mitigé.
Oui, avec 2 victoires sur 6 pour les clubs de l'Hexagone. En Ligue des Champions, Paris et Monaco se sont respectivement inclinés 3-2 et 2-1 contre Liverpool et l'Atlético Madrid. 2 défaites vite éclipsées par la superbe victoire de Lyon contre le champion d'Angleterre Manchester City 2-1, avec des buts de Maxwell Cornet et Nabil Fekir. En Ligue Europa, même bilan comptable avec 1 victoire pour Rennes contre Jablonec 2-1, dont un but à la dernière minute du revenant Atem Ben Arfa. Défaite en revanche pour l'OM contre le Francfort de Kevin Trapp 2-1 et de Bordeaux contre le Slavia Prague 1-0.
Et Kevin Trapp qui ne perd toujours pas contre l'Olympique de Marseille. Le rugby et le début de la saison idyllique du Stade Toulousain s'est brutalement arrêté ce week-end, on en a parlé juste avant.
Oui, une défaite 66-15 face aux voisins et vice-champions de France Montpellier-Rhin. Une rencontre bien mal débutée avec un carton rouge directement pour le Toulousain face à l'ailé. Les hommes du Gomola ont encaissé pas moins de 10 essais, dont un quadruplé pour l'ancien Toulousain Louis Picamol, mais conservent tout de même leur place au classement du top 4. De son côté, Castres a subi la foudre face au Racing avec une défaite 27-11. Les Castrés sont 5e au classement. Donc au classement, c'est toujours Clermont qui est en tête malgré sa défaite 23-19 contre Bordeaux-Bègle. Le Stade français est 2e après sa victoire contre Pau 25-13. Le Stade toulousain 3e. En bas du classement, Grenoble et Perpignan ferment la marche. En Pro D2, 2e victoire de la saison pour Colomiers, vainqueur de Biarritz 27-10. De son côté, Montauban s'est incliné contre Béziers 27-5 et Carcassonne a gagné contre Bourg-en-Bresse 32-21. Au classement, Mont-de-Marsan est en tête, juste devant Bayonne et Carcassonne. Colomiers est 11e, juste devant Montauban 12e.
Et une fois n'est pas coutume, encore une fois, un début de saison galère pour les clubs de Toulouse. Cette fois-ci, c'est le Phénix en handball, les hommes de Philippe Gardin.
Oui, avec un match nul 29-29 contre Cesson-Rennes. Le Phénix est 9e. En tête du championnat, Paris domine toujours devant Nantes et Montpellier. En Ligue des Champions, nouvelle défaite pour le champion d'Europe Montpellier, cette fois-ci contre le Metz-Cov-Brest 26-23. Défaite aussi pour Nantes contre CZ 30-28.
La bonne nouvelle,
oui, compliqué à dire. La bonne nouvelle côté français, par contre, elle est pour Paris, vainqueur de celle G 33-21.
Et en tennis, 14e titre en carrière pour Gilles Simon.
Oui, le français s'est imposé en finale du tournoi de Metz contre la surprise allemande Mathias Bachinger, 7-6-6-1. Le niçois, numéro 2 français à la race, c'est le classement sur l'année, je le rappelle, s'impose pour la 3e fois après 2 sacres en 2010 et 2013.
Et c'est le début du championnat du monde de basket féminin en Espagne et c'est un très bon début pour les Français.
Oui, très bon début, on peut le dire. 2 victoires en 2 matchs pour les coéquipières de Marine Johannes. Une première victoire contre la Corée du Sud 89-58 et une seconde 75-71 contre la Grèce. Les Françaises qui affronteront pour la première place du groupe le Canada visent un podium cette année.
Et en volée, déception pour les Français éliminés au deuxième tour du championnat du monde.
Malgré 2 belles victoires contre l'Argentine et la Pologne, championne du monde sortante, les coéquipiers d'Erwin Engapet et Kevin Leroux sont éliminés et ils ne feront pas partie du Final Six. Une nouvelle déception pour les Bleus qui devront se remobiliser avant l'Euro 2019 à domicile.
Et enfin, on en a parlé avec Marek Keta tout à l'heure dans les coups de cœur et les coups de gueule, le premier titre pour la France aux mondiaux de judo.
Oui, pour Clarisse Agbegnénou en moins de 63 kilos, la Française est désormais triple championne du monde et compte désormais au nom des grands champions du judo féminin français. A noter également la belle médaille de bronze pour Amandine Bouchard en plus de 52 kilos.
Merci Timothée Rouvière pour les résultats sportifs du week-end. On se retrouve tout de suite pour le débat.
Sportez-vous bien. Le débat.
Finaliste de la dernière Ligue Europa et 4e de Ligue 1 l'an passé, l'Olympique de Marseille cherche toujours plus haut. Auteur d'un bon début de saison, les Marseillais grandissent de grandes ambitions. Messieurs, tout simplement, comme d'habitude, on répond par oui ou par non. L'OM peut-il faire mieux que la saison passée, Lucas Cerdic?
Très difficilement, quand même.
Maxime Brossard.
Ouais.
Oui. Marek Keta.
Ouais, peut-être.
Et Timothée Rouvière.
Oui.
Et Nolan Bediaf, est-ce que Marseille peut faire mieux que la saison dernière?
Oui, ouais, c'est sûr.
C'est possible?
Oui, c'est possible.
Lucas, c'est compliqué.
Bah, très difficilement, parce que quand même, mieux que la saison dernière, ça voudrait dire un podium et une finale de Ligue Europa. Donc ça commence à devenir compliqué. Je les vois pas retourner en finale de Ligue Europa. Ils avaient bénéficié d'un
tirage
d'un parcours très bien. Bah, tout le mérite était pour eux, hein, d'avoir réussi à faire fructifier tout ça. Mais de là à les revoir en finale cette année, je ne pense pas. Un podium, c'est peut-être jouable. Moi, je faisais partie de ces gens qui les voyait bien sur le podium à la fin de la saison, étant donné les difficultés que Monaco allait rencontrer. Je les vois pas faire mieux qu'une troisième place et alors en Ligue Europe, pas finale quoi.
Timothée Rouvière.
Ah oui, c'est sûr, ça va être compliqué en Ligue Europa parce que voilà, ils avaient bénéficié d'un parcours assez idyllique. Mais moi, je pense qu'en Ligue 1, ils peuvent plutôt se débrouiller. Bon, le recrutement a pas été à la hauteur des espérances des supporters. Il y a pas un grand attaquant promis par Jean-Marc Ayrault.
On est d'accord, mais l'OM a été, si on reprend les mots de Rudy Garcia, l'une des meilleures attaques de la Ligue 1, et aller au bout en Ligue Europa, enfin au moins en finale. Ils ont surtout recruté au milieu de terrain en défense, là où ça pêchait un petit peu. Pourquoi recruter finalement un attaquant quand on a l'une des meilleures attaques du championnat l'année dernière?
Parce que sur les grands matchs, ça manque. Sur les grands matchs, un point d'appui, un attaquant de pointe, ça manque, parce que même si Germain est à 18 buts et Mitroglou est à 13 buts la saison dernière... Il manque d'un attaquant de pointe pour aller chercher, peser sur les défenses.
Ouais, après, le problème de l'an dernier, on se rappelle, c'était l'effectif, pas au niveau de la qualité, mais
la quantité.
La quantité. On avait des joueurs qui, comme Adil Rami, à titre d'exemple, sont arrivés à plus d'une 35 matchs, je crois, de la saison. Arrivé à la finale de l'Europa, il était à plus de 35 matchs. Donc, ça va être ça le problème. Le recrutement cette année, c'est Strootman. En défense, je ne sais même plus...
Il y a Kaletakar.
Kaletakar, le croate.
De toute façon, qu'on mette 18 joueurs ou 20 joueurs, Rudy Garcia, il n'est pas adepte de ça. Lui, il a toujours fonctionné comme ça. Il a 11 joueurs, il en a 3, 4, 5 qui comptent en sortie de banc, qui fait tourner. C'est comme ça qu'il avait procédé avec Lille aussi quand il a été champion, si je ne dis pas de bêtises, en 2011. Rudy Garcia, c'est quelqu'un qui compte sur un noyau très très dur de joueurs. Sinon, le meilleur exemple, c'est Abdennour. Je veux dire, aujourd'hui, ils ont pénurie en défense centrale. Le type, il joue jamais. Luis Gustavo a été catastrophique.
Hier, c'était pas bon.
Dimanche, il a été catastrophique. Et c'est pas un défenseur central. C'est pour ça, c'est pas son poste. Faut arrêter. On en a des bons sur le banc. Une paire Camara, Abdennour, je suis désolé, ferait pas tâche. Mais c'est pas dans les habitudes de Rudy Garcia, tout simplement. Donc là, le problème de quantité d'effectifs, moi, j'y crois pas. Je suis d'accord avec toi, Jean, quand tu dis qu'il n'y avait pas besoin forcément d'un attaquant. Par contre, il y a besoin de se servir des bons défenseurs qu'on a.
Nolan Bediaf, que peut espérer finalement l'OM cette saison en Ligue 1 et finalement en Coupe d'Europe aussi?
Bah si,
le podium?
Je pense que cette année il peut jouer le podium, c'est comme on l'a dit précédemment, Monaco a pas l'équipe pour lutter comme l'année passée, donc je pense qu'ils peuvent largement jouer un podium. Après ouais, la défense c'est chaotique, je pense qu'ils pourraient faire tourner, mettre peut-être un peu plus en concurrence les joueurs. Ça va peut-être lui permettre de le faire avec Adil Rami blessé et Kaletakar suspendu. Donc
Rolando blessé aussi. Rolando est blessé aussi.
On va attendre de voir ce que ça donne avec un Camara, je pense, qui est potentiel, qui a un beau potentiel.
Timothée Rouvière.
Moi, je pense que c'est surtout au niveau du banc que c'est compliqué. Quand Marseille est mené ou quand Marseille a du mal à mettre en place son jeu, au niveau du banc, c'est compliqué parce qu'au Campos, même s'il y a du déchet, c'est un garçon très généreux, c'est sûr, mais il y a du déchet, il ne marque pas beaucoup de buts et...
Ils ont Clinton, ils ont Bounassar, ils ont le Serbe dont j'arriverai pas à me souvenir du nom, mais Radonjić,
voilà.
Certic aussi.
Qui est pas... voilà, lui pour le coup, c'est pas grave. Mais je pense qu'ils ont ce qu'il faut comme banc. Mais encore une fois, c'est pas un problème de joueur, c'est un problème que Rudy Garcia s'en servira pas.
Messieurs, est-ce qu'une bonne saison pour l'Olympique de Marseille, ça passe par une Coupe de la Ligue ou une Coupe de France? Le dernier titre de l'OM, c'est le Trophée des Champions en 2012 et ils avaient l'année juste avant gagné la Coupe de la Ligue. Est-ce que ça passe obligatoirement, finalement, pour des clubs comme ça, de gagner une Coupe de la Ligue, une Coupe de France?
Ben justement, mon mouet, c'était par rapport à ça, en fait. Et je me disais que ils peuvent un peu rattraper les choses, l'OM, peut-être en gagnant une Coupe de la Ligue ou une Coupe de France. Ça ferait du bien, parce que c'est quand même un club mythique. Ça rajouterait une ligne sur le palmarès. Et puis, quand on voit la ferveur qu'il y a eu l'année dernière avec la Ligue Europa, je pense que même si c'est une Coupe de la Ligue ou une Coupe de France, les supporters, ils le prendront. Il n'y a aucun souci.
Ah, je trouve ça trop petit, moi, pour eux. Je sais pas, ça colle pas justement.
Même
ça
une va Coupe être... de France, c'est trop petit pour l'Olympique de Marseille.
Ça va faire descente un petit peu, non? Après une finale de Ligue de Ligue Europe. Bon, enfin, bon,
entre,
ça,
entre gagner une Coupe de France et faire finale de Ligue Europe, faut demander, je préfère gagner
faut,
la Coupe de France.
Moi, je pense qu'il faut demander à un supporter marseillais ce qu'il en pense là-dessus.
Nolan Bedioff.
Non, c'est sûr que la ferveur qu'il y a eu. Ouais, mais la ferveur qu'il y a eu avec la Ligue Europa, je pense que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas vécu ça. Et les Marseillais vivent pour vivre de ce genre de choses. Une Coupe de France, oui, c'est pas à la hauteur du parcours de Ligue Europa qu'ils ont fait l'an dernier, je pense.
Mais en tant que sportif de haut niveau, on le sait bien, vous êtes mieux placé que nous. Le plus important, c'est la ligne sur le palmarès, c'est le titre. Donc finalement, entre une finale de Ligue Europa perdue, malheureusement, et même une victoire en Coupe de la Ligue ou une Coupe de France, c'est sûr, c'est pas à l'auteur d'une Coupe d'Europe, mais ça reste un titre.
Ah, mais Marseille, c'est peut-être l'exception, hein, justement. Les frissons, l'émotion, la ferveur, ils n'ont pas forcément besoin d'une ligne, comme tu dis, sur le palmarès. Une victoire contre Paris, ils la prendraient, ils l'échangeraient contre deux Coupes de France, à mon avis.
Ouais. Je suis pas d'accord. Ouais,
je pense que pour cette année, ils se contenteront de ce qu'il y aura, mais c'est vrai que dans deux ans, ils auront oublié les frissons qu'il y a eu en Ligue Europa et il faudra gagner quelque chose. Et c'est là que, oui, une Coupe de France, une Coupe de la Ligue, il faudra la faire, je pense.
Messieurs, la Ligue des Champions, elle est impérative cette année pour l'OM.
Ouais, pour moi, elle est complètement impérative.
C'est une obligation.
Pour moi, ouais. Parce
financièrement,
que,
surtout.
Ouais. Oui, déjà financièrement. Et puis, quand même, rappelons qu'on a quand même trois champions du monde à l'OM, ne serait-ce que pour le rayonnement du club. Ça me paraît assez logique que l'OM, ce soit l'objectif premier pour moi cette saison.
Ça validerait le Champions Project un peu, quoi.
Et ça permettrait surtout aux joueurs de s'exercer aux joutes européennes, parce que des joueurs comme Payet, Thauvin, ils n'ont pas l'habitude de jouer des grands matchs européens, et c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas leur chance en équipe de France.
Marie Keita parlait tout à l'heure de... Non, c'était vous, pardon, Nolan Bediaf, de Monaco. Monaco a un effectif un peu moins important que l'année dernière. Finalement, l'OM, par rapport à des clubs comme Monaco, Lyon, et j'ai même rajouté sur le début de saison, Lille. Où se place l'Olympique de Marseille? On va laisser le PSG largement de côté, mais où se place l'OM par rapport à ces clubs?
Deuxième ou troisième meilleur effectif de France aujourd'hui.
Donc c'est une obligation finalement vraiment d'être sur le podium.
Pour moi, avec ce qu'a perdu Monaco, c'est obligé. Déjà l'année dernière, je trouvais que l'effectif marseillais était pas loin de celui de Monaco. Avec ce qu'ils ont perdu, c'est obligé. Lille, ils sont encore un petit peu trop... Les noms pourront être ronflants à la fin de la saison, mais pour l'instant, ils sont encore un peu trop modestes par rapport à l'effectif marseillais. Et comme Nolan l'a rappelé, non pas Nolan, qui l'a rappelé déjà tout à l'heure, je ne sais plus, trois champions du monde. En tout cas, voilà, Marek, excuse-moi.
Monaco, il manque du monde quand même là en ce moment. Il manque Subasic, qui c'est Sidibé qui va revenir aussi fort.
Golovin.
Oui, ouais. Il y a eu l'exception en début de saison, mais on parle justement du fait que Monaco, c'est plus peut-être le grand Monaco qu'on a connu sur ces dernières années. Marseille est allé gagner à Monaco, mais encore une fois, comme hier soir, quand il s'agit du niveau encore plus élevé, le PSG et l'Olympique Lyonnais, défaite 4-2 à Lyon hier. On a l'impression que Marseille, ça ne change pas contre les gros.
Les fameux matchs contre les top 5.
Voilà,
ouais.
C'est compliqué.
Oui, c'est vrai.
D'où
c'est
l'importance d'avoir un attaquant, moi je pense.
Sur les gros matchs? Sur les gros matchs, oui. Hier, je pense que tu peux avoir un attaquant.
Oui, mais ça aurait au moins pu éviter une défaite lourde.
Tu mets deux buts à Lyon, ça devrait suffire normalement, non?
Surtout avec la défense qu'on avait hier.
La défense hier, c'était...
Si on va avoir n'importe quel grand attaquant, ça n'aurait rien changé.
Merci messieurs, on se retrouve maintenant dans moins de 4 minutes avant d'être avec notre invité, de se pencher sur le roller, sur notre invité Nolan Bediaf. À tout de suite. Les Kids United sur Radio Présence.
Sportez-vous bien. L'invité.
Aujourd'hui, notre invité est champion du monde de roller sur le 20 km et sur le marathon. Dans un sport pas vraiment médiatisé, Nolan Bediaf a un rêve, comme tous les amoureux du roller, participer aux Jeux Olympiques 2024 en France. Nolan, rebonsoir.
Rebonsoir.
Voilà, les Jeux Olympiques 2024 en France, il y a de bons espoirs de voir cette discipline aux Jeux Olympiques en France ?
On espère tous, du moins dans le monde du roller, accéder aux Jeux Olympiques parce que c'est le but un peu de tous les sports pour avoir sa part de médiatisation un peu, surtout quand on a un petit sport. Après, voilà, les chances sont comme... avec les sports avec lesquels on est, la pétanque, les e-sports, ça va pas être simple parce qu'on n'a pas leur lobbying. On n'a pas toutes les marques qui suivent derrière pour pousser. Donc on part pas en avance. Je sais pas si on est en retard. Après voilà, on va espérer comme tout le temps.
Comment on fait un dossier pour accéder aux Jeux Olympiques ? Il faut déjà qu'il y ait un sport qui parte, qui s'enlève. C'est déjà la complexité.
Je sais plus, je crois pas. Je crois que maintenant, les comités d'organisation peuvent mettre des sports en démonstration et c'est ce qui pourrait nous permettre d'avoir une chance pour 2024.
Il n'y a pas de limite au niveau du nombre de sports, il y a une limite au niveau du nombre d'athlètes. Donc si jamais on doit rajouter des sports, il faut enlever des athlètes dans les autres sports. On n'est pas obligé d'enlever un sport.
D'accord. Et donc il y a une concurrence, je pense à la pétanque. Quand on est en France, on est très fort, on est encore champion du monde, là, il n'y a pas longtemps de pétanque. La concurrence est là avec la pétanque notamment.
Ouais, la pétanque, le e-sport. Le e-sport aussi est hyper en vogue en ce moment avec tous les sports, que ce soit sur FIFA.
C'est pas vraiment du sport. Enfin, je sais pas.
Ouais. Mais
carré, attention. Hein. Tu vas t'attirer des foudres.
Oui.
C'est pas grave.
Donc, non, c'est compliqué face à des sports comme ça. C'est surtout compliqué par rapport à leur environnement. Tout ce qu'il y a derrière, les fédérations sont plus fortes que la nôtre, que les nôtres, niveau international et national. Et donc, du coup, c'est plus tout le soutien et la manne financière que ça peut amener qui est compliqué.
Mais finalement, le terrain de l'ère de jeu du roller est déjà préparé. Il n'y a rien à avancer vu que c'est sur le marathon. Finalement, on fait les courses sur le marathon. Donc, il n'y a rien de plus à rajouter.
Non, il n'y a rien de plus. C'est... Après, je pense que si on s'aligne sur le même marathon à pied que... sur le même marathon au niveau du circuit que les coureurs à pied, on aura peut-être quelques soucis en termes de sécurité, de virage, de vitesse. Et tout, voilà. Mais après, oui, on pourrait largement aller sur leur circuit.
Après, est-ce que la participation du roller, ça passerait pas peut-être par une, on va dire un peu une réforme de la discipline. Enfin, je prends l'exemple de la pétanque. En fait, ce sera pas la pétanque comme nous on la connaît. Ils vont présenter s'appelle le relais mixte. En fait, c'est une discipline déjà qui colle dans l'air du temps avec, on va dire la parité, donc l'égalité homme-femme. C'est une équipe mixte et en fait, c'est un relais avec des joueurs qui font un concours de tir. En fait, donc est-ce que le roller, c'est pareil ? Est-ce qu'il faudrait peut-être pas changer un peu la discipline ou...
C'est ce qui est compliqué avec notre fédération internationale, c'est qu'on a 7 ou 8 disciplines un peu comme le vélo où il y a du BMX, du VTT, du vélo de route, du vélo de piste.
Ouais, il y a des notes aussi.
Il y a de l'artistique, il y a du sport co avec du hockey. Nous, on fait de la course. Il y a aussi du freestyle, des rampes qui est plus connu avec les X Games notamment. Mais du coup, après, moi, ce qui m'a toujours embêté dans notre sport en fait, c'est qu'on est une des bases, en fait. On fait la course dans toutes les disciplines, que ce soit en vélo, à pied, sur des bateaux ou autre. En roller, c'est exactement la même chose. On fait la course simplement, il y a un classement et puis il y a un résultat. Et donc, il y a des fois, je me demande pourquoi c'est pas si connu que ça, alors que des pratiquants de roller en France, il y en a peut-être bien 3 millions.
Ah oui, d'accord. Et vous parlez justement des rollers X-Games. En quoi consiste le roller où vous êtes champion du monde, c'est-à-dire sur le 20 km et sur le marathon ? Parce qu'en France, la plupart parlent de roller, on se dit tout de suite les X-Games, les figures, les machins. Hein. Voilà. Ouais, c'est pareil c'est,
oui, ouais, tout le monde pense à ça. Quand j'étais plus jeune et que je parlais du roller, on me dit « Ah, ouais, tu fais comme Ty Chris ». Non, on ne fait pas du tout comme Ty Chris. Hein. Nous, le but, c'est d'aller vite sur des distances données, comme le 20 km élimination sur route et le marathon où j'étais champion du monde. Donc, on va vite, les gens ne s'en rendent pas compte. J'étais à Berlin la semaine dernière sur le même circuit que le marathon à pied. J'ai fini troisième. Ouais. On a fait le marathon 57 minutes 58 secondes. Donc ça, c'est du 44 km/h. Quoi.
Lucas Serdic.
Est-ce qu'on a beaucoup de similarités avec un sport qui pour le coup est olympique, mais un sport d'hiver, le patinage de vitesse. Est-ce qu'il y a des passerelles ? Est-ce que les joueurs les sportifs de ce sport-là voilà, font aussi du roller.
Oui, on a notamment au dernier JO, on avait un Français qui était multiple champion du monde en roller, Alexis Contin.
Qui a
échoué pas loin du podium lors de la Mastart, qui est une course sur glace qui était toute nouvelle cette année aux Jeux Olympiques et qui se rapproche vraiment du roller, c'est vraiment la même chose.
Il est tombé genre à deux tours de la fin ou quelque chose?
Non, il n'est pas tombé, et voilà, il jouait vraiment la gagne et puis l'emballage s'est lancé sans lui, donc le temps qu'il reprenne le wagon, c'était trop tard.
Quelle aptitude physique il faut avoir pour faire du roller sur route, sur piste?
Ouais. Il faut pas mal d'agilité parce que quand on roule à 40 à l'heure, on est vraiment que sur nos pieds, on n'a pas un cadre comme un vélo où on est tenu dessus. Il faut avoir une grosse musculature au niveau des jambes, forcément, puisqu'on est on est en isométrie en fait. On est tout le temps un peu comme sur une chaise, sauf qu'on se tient tout seul. Et les marathons, les plus rapides, donc c'est en 58 minutes comme j'ai fait à Berlin, où des fois ça va jusqu'à 1h10, 1h15. Donc ouais, c'est un sport d'endurance. Mais qui demande beaucoup musculairement, surtout pour aller à haute vitesse.
Vous êtes champion du monde sur le 20 km, sur le marathon. Il y a une grosse différence entre les deux disciplines?
Qu'est-ce
qui change finalement entre les deux, à part la distance?
La distance et la course en elle-même. Le 20 km, on est 50 au départ et on finit à 5 pour le dernier tour, vu que c'est une course à élimination.
C'est le dernier qui est éliminé tous les tours, c'est ça?
Voilà, c'est ça.
Ah oui.
Donc du coup, c'est ce qui est différent. Il faut lutter pour être tout le temps placé devant. Alors que sur un marathon, si à un moment donné, on se retrouve 50, 60e, il n'y a pas mort d'homme comme au vélo au Tour de France, quoi. Comme les leaders peuvent se permettre de temps en temps de reculer dans le peloton.
C'est la même préparation physique entre les deux ou pas?
Pas tout à fait. On peut performer sur marathon et en s'entraînant moins parce que c'est une distance plus longue où il y a moins de... Il faut être moins... concentré, je pense. Il n'y a pas besoin d'être autant concentré, plutôt. Alors que le 20 km élimination, c'est vraiment... On ne peut pas faire d'erreur, ou alors une, mais c'est trois quarts du temps. Si on fait une erreur, on se fait éliminer et la course est finie.
Ce que vous appelez une erreur, c'est quoi? C'est une chute, par exemple?
Une chute, un problème d'inattention, un mauvais placement, vu qu'il y a beaucoup plus de batailles pour garder sa place, en fait, sur le 20 km élimination. Il faut être concentré, anticiper le mouvement des autres et essayer de ne pas perdre sa place, parce que si on perd de la vitesse et sa place dans le dernier virage, avant la ligne d'arrivée où il y a l'élimination, on peut reculer et se faire éliminer et passer en dernier sur la ligne.
Mais ces tours-là sur le 20 km, c'est dans quel environnement? C'est urbain?
Ça peut être urbain. Moi, j'ai fait ça sur circuit routier, donc c'est... donc la norme, en fait, au niveau international, le circuit routier, c'est un circuit qui n'est pas symétrique, pour le différencier justement de la piste, comme une piste
d'athlée. Comme le vélo.
Voilà, comme une piste d'athlée aussi. Et après, il doit faire au minimum 400 mètres, et là où j'ai fait champion du monde, il faisait 500 mètres.
Donc 500 mètres, ça fait quoi? Sur 20 km, ça fait
40 tours.
40 tours,
ouais. Donc 40 tours à 50, c'est ça. C'est vraiment un éliminé chaque tour. Aujourd'hui, est-ce que vous vivez de ça, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, c'est un sport qui n'est pas vraiment médiatisé. Est-ce que vous vivez de ce sport, de cette discipline?
Ouais, j'arrive à en vivre depuis peu. Aujourd'hui, j'ai 27 ans aujourd'hui, mais je dirais que ça fait 3 ans que j'en vis parce que je suis sponsorisé. J'ai un sponsor qui m'aide au fil de l'année à me déplacer sur les courses, mais aussi à être rémunéré et à pouvoir m'entraîner. Et à côté de ça, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur et du coup, ça complète mon salaire, on va dire, par mois, et tout en continuant à vivre de ma passion.
Le fait d'être champion du monde, on est beaucoup plus écouté en tant qu'entraîneur?
Ouais, je pense que
c'est... Il y a déjà un crédit d'entrée?
Ouais, il y a un crédit, mais il y a un crédit qui est plus facile à avoir sur des prestations, on va dire, en one-shot ou sur des stages, sur un week-end, parce que les gens viennent, certes, pour apprendre des choses, mais aussi pour côtoyer un champion du monde, donc c'est vraiment différent tout au long de l'année.
Il faut prouver tout le temps, quoi.
Ouais, il faut prouver tout le temps, et un groupe qu'on suit tout au long de l'année, il faut d'autres capacités que juste être champion du monde. Il faut du management, il faut arriver à les faire avancer, quoi.
Lucas Cernic,
quels sont les pays qui performent dans ta discipline? C'est qui tes grands concurrents?
Les grands concurrents sur les championnats du monde, c'est les Colombiens notamment, même s'ils sont plus forts sur la vitesse, donc les distances courtes. Le niveau européen est très élevé en longue distance. On sait très bien que quelqu'un qui est champion d'Europe en fond, donc sur les distances que j'affectionne, il sera pas très loin d'un podium mondial.
La prochaine course, le prochain objectif pour vous, c'est...
Ce sera la saison prochaine, vu que là je suis sur la fin de saison. Il me reste le championnat de France marathon, donc qui aura lieu à Montende le week-end prochain.
Une broutille.
Ou une broutille,
pour,
oui.
Pour un champion du monde,
c'est pas une broutille, ça reste important parce que c'est là où on a commencé et je pense que c'est important pour motiver les jeunes derrière de s'aligner au départ à côté d'un champion du monde. Je pense que c'est intéressant. Moi, ça me faisait rêver quand j'étais plus jeune, alors j'ai envie de leur donner cette chance aussi. Et après, les prochains gros objectifs, ce sera à Barcelone l'année prochaine. Ça s'appelle les World Roller Games, donc c'est les championnats du monde de toutes les disciplines du roller. Donc on appelle ça une mini-olympiade du roller en fait pour nous. Qui aura lieu à Barcelone à partir du 5 juillet. Et donc, le but, ça va être d'essayer à nouveau de remporter un titre.
Toutes les courses?
Non, pas toutes les courses où je serai aligné, mais déjà, il va falloir y aller parce qu'il y a une grosse génération de jeunes qui est montée. Et ensuite.
Justement, comment on est aligné sur les courses? C'est vous qui choisissez, c'est le sélectionneur de l'équipe de France de roller. Comment on est désigné pour une course?
On se bat pour certaines courses. On sait très bien à haut niveau qu'il faut choisir soit la vitesse, soit le fond. Donc Usain Bolt ne va pas faire un 10 km et inversement Mofara ne va pas faire du 100 mètres, donc c'est vrai qu'on est plutôt axé sur moi je suis plutôt axé longue distance et après c'est le sélectionneur qui en fonction des qualités de chacun, des rouleurs, des sprinteurs, des gens qui vont vite qui l'aligne la meilleure paire possible pour remporter le titre.
Marek, oui, il est juste là. Nolan Bediaf, pardon, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. On se retrouve tout de suite pour l'agenda sportif de la semaine.
Portez-vous bien. L'agenda sportif.
Et l'agenda sportif avec vous, Lucas Serdic.
Oui, et beaucoup de dates à cocher dans l'agenda cette semaine, beaucoup de sports collectifs, et notamment, pour moi, le grand rendez-vous, ça va être ce samedi avec le choc entre Toulouse et Castres, donc le champion de France en titre, face à son voisin toulousain, chez qui il a très bien réussi ces dernières saisons. C'est le troisième qui reçoit le cinquième, et ce sera à 15h10 samedi, pour ceux qui veulent pas aller au stade, bon déjà, c'est pas bien, ce sera toujours sur Canal+, évidemment, dans le même temps, enfin... Quelques instants plus tard, plutôt, Agen recevra Pau, le 12e contre le 10e de clubs un petit peu en difficulté qui ont perdu ce week-end. C'est samedi à 18h. En Pro D2, on jouera la 6e journée, comme en Top 14 du reste, avec un derby intéressant entre Montauban et Colomiers, deux clubs qui ont quand même l'habitude de jouer les premiers rôles ces dernières saisons. Mais là, qui sont 12e et 11e, c'est pas un début de saison très convaincant pour les deux clubs. Ce sera dimanche à 14h15. C'est le match un peu phare, malgré la position.
Le match phare, mais le match de la peur.
Ouais, délicate des deux clubs. Pas de fédéral 1 ce week-end, malheureusement. Il va falloir attendre une semaine de plus pour voir Blagnac qui caracole en tête de sa poule 3 de fédéral 1 jouer. Par contre, on aura du rugby à 13 et c'est une affiche qui mérite d'être soulignée puisque c'est le dernier match des qualifiers pour le Toulouse Olympique. Le Théo qui est vraiment à ça d'avoir la 5e place qui lui permettrait de jouer un barrage qui lui permettrait d'aller en première chip. Et c'est l'objectif du club depuis plusieurs saisons. Il joue à Salford en Angleterre, c'est difficile parce que Salford, ils sont dans les trois premiers. C'est jeudi à 20h45, peut-être pour le dernier match de la saison du Toulouse Olympique. On passe au foot avec de la Ligue 1, deux rendez-vous, Toulouse-Saint-Etienne. On commence demain par ça, soir. Puisque c'est demain à 21h. Bon, c'est pas toutes les semaines qu'on a l'occasion de voir un match en pleine semaine, intéressant en plus, au Stadium. 15€ l'entrée, enfin c'est le premier tarif en tout cas, on est bien loin des 70 euros qu'il faudra débourser pour le PSG et qui a fait un peu parler cette semaine. Donc Toulouse a l'occasion de gagner et de continuer sur son bon début de saison demain soir 21h et dimanche se déplacera à Rennes à 15h. On a des matchs aussi intéressants en national. Pau qui va accueillir Rodez, donc là on est sur deux équipes en plus qui nous concernent dans le sud-ouest. C'est la 9e journée. Rodez est 5e, vient d'enchaîner 3 victoires et Pau est 16e et en difficulté. Pour les Palois, c'est un match à voir à partir de 5€ vendredi à 20h. On a du basket aussi avec la Proa qui a repris la semaine dernière. Deuxième journée, toujours à Pau, qui accueille Monaco. C'est un choc quand même. C'est vraiment une belle affiche de Proa. Pareil, à partir de 5€, jeudi à 20h45. On a du handball aussi. Là, on revient à Toulouse, qui accueille Tremblay. L'occasion d'une première victoire peut-être cette saison en championnat.
Pas Tremblay,
voilà, ce serait pas mal. C'est le 9e contre le 6e. On joue la 4e journée. Mercredi à 20h30. Pareil, il y aura Il n'y aura que 5 euros à débourser pour voir ce match. Ce serait dommage de s'en priver parce que le handball, c'est toujours intéressant. Et dernier mot pour le sport collectif, et là, un petit clin d'œil aussi à Maxime, puisque c'est le retour du hockey sur glace à Toulouse. La deuxième journée, malheureusement, c'est à Roanne. Donc, on va avoir du mal à suivre le Toulouse-Blagnac. Mais ils ont bien commencé, hein, une victoire face à Morzine. Samedi à 20h, deuxième journée de hockey sur glace. C'est en D2, je précise.
Lucas Serdic, merci pour l'agenda de la semaine. Et on se retrouve tout de suite pour le deuxième débat du soir.
Sportez-vous bien. Le débat.
Et on va parler de rugby. L'année 2017 fut une année riche en rebondissements pour le Stade français. Une fusion avortée avec le Racing 92 en mars 2017, suivie deux mois plus tard du rachat du club par Hans-Peter Wild. Aujourd'hui, deuxième du top 14, les Parisiens semblent avoir retrouvé de l'allant. Messieurs, comme d'habitude, on répond par oui ou par non à cette simple question. Le Stade français est-il le nouveau PSG du rugby, Lucas Serdic?
Non.
Maxime Brossard?
Non.
Marek Keta?
Pour l'instant, oui.
Et Timothée Rouvière?
Oui.
Maxime, non. Pourtant, il y a quelqu'un avec beaucoup d'argent qui est arrivé au Stade français.
Oui, bon, l'argent ne fait pas tout, déjà, quand on voit Clermont qui caracole en tête. Bon, après, Clermont, comme je le dis dans chaque émission, on sait qu'au moment des phases finales, on va voir ce que ça va donner. Après, donc oui, pour revenir sur le Stade français, tout simplement, effectivement, oui, c'est plutôt... l'année de la renaissance pour ce grand club quand même du rugby, avec quand même 14 titres de champion de France. Alors avant de dire que c'est le PSG du rugby, je pense qu'il faut quand même attendre un tout petit peu. Là, on va dire que le projet en est assez balbutiement, mais finalement, je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles en fait entre le PSG, et notamment rien qu'au niveau du staff, on voit la présence de quelqu'un comme Heinke Meyer. On peut faire un peu un parallèle avec Ancelotti. C'est des entraîneurs expérimentés qui viennent apporter leur savoir dans une équipe qui est en pleine reconstruction.
Timothée Rouvière, vous avez dit oui ou vous? C'est le nouveau PSG du rugby.
Moi, je pense surtout au niveau du recrutement. On a vu, comme l'a dit Maxime, Heinke Meyer, qui est quand même champion de France en 2007 avec l'Afrique du Sud, et surtout au niveau du recrutement.
Champion du monde.
Champion du monde, pardon. Champion du monde en 2007 avec l'Afrique du Sud. Et au niveau du recrutement, surtout, que ce soit Gaël Ficou et Johan Maestri en tant que Toulousain, on peut que relever ces deux noms. On voit que c'est quand même costaud. Il y a des gros joueurs qui sont arrivés. Il y a des contrats qui sont mirobolants. Donc, rien qu'au niveau du recrutement, on peut déjà dire que c'est le nouveau PSG.
Lucas Serdic, vous êtes absolument pas d'accord.
Bah, ça peut pas être le nouveau PSG parce que tout simplement dans le rugby il existe des garde-fous qui n'existent pas au foot, en tout cas dans le championnat de France, un salary cap et tout et tout. On est encore vraiment au tout début de ce qui commence à se faire, c'est-à-dire dépenser de l'argent pour acheter des contrats de joueurs. On en est encore très loin. Dans le rugby c'est encore, et ils peuvent s'en féliciter, un sport où l'état d'esprit, une équipe soudée peuvent faire la différence. Le meilleur exemple, c'est Castres l'année dernière, on l'a suffisamment dit. Donc à partir de là, moi je ne vois pas un club dominer à ce point-là un championnat aussi dense et aussi compliqué que le top 14, juste avec un ou deux billets de plus.
Maxime Brossard, on a parlé tout à l'heure, il y a beaucoup de parallèles avec le PSG. Vous avez parlé tout à l'heure, Maxime, du staff, mais aussi le sportif. Le PSG a été racheté par le Qatar alors qu'il était très bas au classement.
Très bas.
Très très bas. Ils ont joué le maintien à Sochaux en 2008.
c'était 4 ans avant.
Et du jour au lendemain, finalement, le Paris Saint-Germain au foot a explosé les compteurs en termes de transfert, en termes de salaire. Est-ce que c'est parallèle, c'est un peu la même chose?
Après, pour revenir sur ce que disait Lucas et qui est très juste, c'est qu'il y a des garde-fous au rugby qui empêchent de faire n'importe quoi. Après, ces garde-fous, on peut très bien les contourner. Je prends l'exemple de notre cher Mourad Boudjelal, qui est spécialiste du salary cap, avec moi d'Altrad aussi, dédicace.
Oui.
Et après, oui, effectivement, ça, le problème du salary cap, ça peut se contourner. Mais après, je pense que avant que Paris puisse vraiment dominer outrageusement le championnat, il faudrait peut-être passer par une réforme dont on a parlé tout à l'heure, qui est peut-être la réforme tout simplement du championnat, puisqu'avec des phases finales, les cartes sont rebattues à chaque fois.
Tout à fait. Marek Keta.
Oui, alors moi je reviens, effectivement il y a beaucoup de parallèles, et si on prend donc le voisin du Stade français, le Paris Saint-Germain, ils sont redevenus compétitifs à partir du moment où ils ont tout gagné, ou ils ont gagné en tout cas. Pour l'instant, si on regarde le classement, Paris a 5 victoires à son actif, si je ne me trompe pas. Ouais, 4 victoires. Voilà.
Il manque.
Il manque.
Timothée.
Après, je pense qu'on ne peut pas forcément comparer et le PSG et le Stade français. Pourquoi ? Parce que...
C'est deux sports différents, on est d'accord. Mais...
On est d'accord, c'est deux sports différents, mais dans le top 14, on a quand même une multitude d'équipes qui peuvent jouer les six premières places qualificatives, alors que le PSG est là-haut et on peut quasiment dire qu'il va être champion de France, alors qu'on ne sait pas qui sera champion de France.
Mais finalement, vous êtes tous d'accord avec moi, alors ? Pourquoi m'embêter à répondre différemment ?
Est-ce que ça se voit sur le jeu, Maxime Brossard ?
Ah oui, alors, par contre, sur le jeu, oui, ça se voit. Quand
le plus important, c'est le sportif, c'est le terrain.
Oui, ça se voit. Et puis, vous pouvez demander confirmation à nos amis palois, je pense qu'ils l'ont vu. Ouais. Enfin, ils ont surtout vu le numéro des joueurs du Stade français ce week-end. Mais après, oui, effectivement, il y a de belles envolées, ça joue bien, surtout au niveau des trois quarts. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont aussi bons en attaque qu'en défense. Une défense aussi efficace.
Quand ils vont jouer le Castres olympique en phase finale, ils vont perdre comme Clermont.
Justement, Castres est une équipe soudée, mais je rappelle quand même que derrière, il y a Pierre Fabre. Et c'est pas non plus le postier l'épicier du coin qui sponsorise l'équipe.
C'est le 11e ou 12e budget. Enfin, c'est pas non plus. Bon, peut-être pas. c'est pas un petit budget par rapport au
Stade français. Non, mais bon, quand même.
Juste en deux mots, et en parlant de budget, justement, pour conclure, est-ce important finalement le budget en top 14?
Ce sera notre débat. Tiens, ça c'est intéressant. Peut-être la semaine prochaine.
Important, mais moins qu'au foot.
On garde ce débat dans un coin de la tête. C'est déjà terminé pour ce soir. Messieurs, merci beaucoup. Merci à Nolan Bediaf, notre invité, champion du monde de roller sur le 20 km et le marathon. Merci à vous. Merci à Coraline à la réalisation. Retrouvez dès 7h Rémi Souloumiac, Isabelle Honeil et Corinne Saint-Félix. À 9h, Vivante Église avec Emmanuel Pella. On se retrouve lundi. Bonne semaine avec Radio Présence.
Au revoir.
Au revoir.
Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, la vie des chrétiens en Midi-Pyrénées. Des invités en direct, l'actualité de l'Église dans toute la région.
Vivante Église.
Du lundi au vendredi de 9h à 10h.
Rediffusion 21h.
Un magazine présenté par Emmanuel Pella.